Didier Barbelivien sur Europe 1. Dis-moi ce que tu chantes.
Il est un peu notre père affectif depuis toujours et notre père PAIR, bien après qu'on ait gratté nos tout premiers accords de guitare. Si on devait se chercher une ascendance artistique, les Yves Duteil, Yves Simon, Maxime Le Forestier, Francis Cabrel, Renaud Séchant, Alain Souchon, Laurent Voulzy, Jean-Jacques Goldman, Didier Barbelivien, Jean-Michel Karadec, j'en passe et j'en oublie, c'est naturellement son nom qui viendrait sur nos lèvres. Nous lui devons tous allégeance. J'ai personnellement pensé qu'à la disparition de Jean d'Ormesson, c'est un homme comme lui à qui on aurait dû attribuer son fauteuil à l'Académie, en lieu et place de ce grand écrivain. Parce qu'ils ont en commun l'œil vif, le goût de l'aventure et des rencontres autour de la langue française, qu'ils n'ont jamais cessé de porter haut et fort sur plusieurs continents. C'est donc avec l'humilité d'un moussaillon que j'accueille en votre nom sur le grand voilier d'Europe 1 le Volkssinger éternel qui est partout chez lui, au cœur de ce studio parisien, comme à la barre du trois-mâts qui nous a fait rêver depuis notre enfance, et j'appelle sur le pont du navire Monsieur Hugues Aufray.
Incroyable.
Hugues, bonjour.
Mais non, mais je suis là.
Tu es quoi?
Est-ce que tu m'autoriseras un jour à utiliser ce texte?
Ah ben bien sûr, il est à toi.
Pour le mettre quelque part en tête d'un album.
Mais il est à toi, c'est comme une chanson de Brassens quand il dit « Elle est à toi cette chanson, toi ouais. L'hôtesse qui s'en façon ».
Eh bien écoute, merci.
Et je pense très sérieusement que j'ai écrit.
Oui, j'ai vu ta sincérité.
J'ai toujours pensé que c'était incongru qu'une personne de notre profession n'est jamais postulé à l'Académie. Alors, je ne dis pas que tu dois rentrer à l'Académie quand tu as 25-30 ans, mais quand on s'honore de ta carrière, de ton personnage, et de ce que tu as été, et de ce que tu es encore, je ne vois pas pourquoi tu n'y aurais pas droit. Tiens, comme celui-là que tu as choisi d'entrée de jeu, celui-là aussi, il aurait mérité d'avoir sa place. Georges Brassens, Les copains d'abord, le choix d'Hugues Aufray.
Ce n'était pas le radeau de la Méduse, ce bateau, qu'on se le dise au fond des ports, dise au fond des ports. Il naviguait en père peinard sur la grand-mare des canards et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord. Ces fluctuates nec mergitures, c'était pas de la littérature, n'en déplaise aux jeteurs de sorts, aux jeteurs de sorts. Son capitaine et ses matelots n'étaient pas des enfants de salauds, mais des amis franco de port, des copains d'abord. C'était pas des amis de luxe, des petits castors et pollux, des gens de Sodome et Gomorre, Sodome et Gomorre. C'était pas des amis choisis par Montaigne et la Boétie, sur le ventre ils se tapaient fort, les copains d'abord. C'était pas des anges non plus, l'évangile il l'avait pas lu, mais il s'aimait toute voile dehors, toute voile dehors. Jean-Pierre, Paul et compagnie, c'était leur seule litanie, leur credo, leur confiteor, aux copains d'abord. Au moindre coup de Trafalgar, c'est l'amitié qui prenait le quart, c'est elle qui leur montrait le nord, leur montrait le nord. Et quand ils étaient en détresse, que leurs bras lançaient des SES, on aurait dit des sémaphores, les copains d'abord. Au rendez-vous des bons copains, y avait pas souvent de lapin. Quand l'un d'entre eux manquait à bord, c'est qu'il était mort. oui, mais jamais, au grand jamais, son trou dans l'aune se refermait. 100 ans après qu'aucun ressort, il manquait encore. Des bateaux, j'en ai pris beaucoup, mais le seul qui ait tenu le coup, qui n'est jamais viré de bord, mais viré de bord. Naviguait en père peinard sur la grand-mare des canards, et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord. Des bateaux, j'en ai pris beaucoup, mais le seul qui ait tenu le coup, qui n'est jamais viré de bord, mais viré de bord. Naviguait en père peinard sur la grand-mare des canards, et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord.
Georges Brassens, les copains d'abord, le premier choix de mon invité Hugues Auffray. En l'entendant, je me disais, ça c'est une chanson que vous auriez pu écrire, mon capitaine. Non ?
Non, je n'aurais pas été capable de faire ce que faisait Georges Brassens, c'était d'avoir une idée et de la compresser comme on compresse un citron, quand on veut presser un citron, jusqu'à la dernière goutte. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de couplets, il y a très peu d'interventions instrumentales, parce que ce n'est pas... il n'y a pas des intermédiaires, c'est que du texte, parce qu'il va jusqu'au bout.
Je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est vrai que dans les chansons de Brassens, quand il attrapait un sujet par les oreilles, quand
il
te le relâchait,
Oui, c'est ça.
C'est vrai, hein ?
Oui, c'est très, très, très fort.
Parce que regarde, même la situation de la supplique pour être enterré sur la plage
c'est
de
un chef-d'œuvre.
C'est un chef-d'œuvre, absolument.
Alors, tout à l'heure, on abordait est-ce que Brassens aurait dû être à l'Académie française. Ma réponse est non, parce qu'il n'aurait pas été grandi par l'obligation de porter le costume d'académicien qui ne lui convenait pas.
Je pense que oui, que tu as raison. Dis-moi, en dehors, parce que toi, tu as beaucoup célébré l'amitié dans tes chansons...
L'amitié, c'est l'amour sans le sexe.
C'est ça. Qui ont été... t'as un tel parcours de vie. Moi, je te connais depuis que je suis... Je trébuchais dans le
moi,
métier.
Moi, je te revois jouant du piano chez moi à Marne-la-Coquette.
C'est vrai. Et je te connaissais, comme tous les mecs de ma génération, tellement bien avant. Ce que je dis dans mon édito sur toi, c'est vrai que... Comment on aurait fait si t'avais pas été là et pour que tes parents nous achètent une guitare. Mais mon vieux, toi, tu t'en rends pas compte. C'est normal. C'est sûrement normal, mais on voulait tous être Hugues Auffray à 14 ans. D'abord parce que la guitare, le machin sur la plage, ça donnait un certain statut, tu vois.
Bien sûr.
En plus, pour draguer les filles, on n'avait pas trouvé mieux. Parce qu'à part les mecs 1m80, bronzés, beaux, costauds, oui, ceux-là, ils avaient un certain succès. Mais quand est arrivée la guitare sèche,
folk,
ou à corde nylon, ou la guitare folk pour peu que tu rajoutais l'harmonica en plus. Non, c'était gagné.
C'était de la chanson portable, tu vois.
Un peu.
Qu'on pouvait véhiculer, c'était fait pour les vagabonds. C'était l'héritage, peut-être qu'on peut le dire maintenant, c'est pourquoi on a donné le prix Nobel à Bob Dylan en littérature. C'est à la suite, Rimbaud a écrit son dernier poème, en gros... Quand il a voulu quitter la poésie pour dire que c'est un truc pour les gamins, mais pas pour les adultes, il a écrit La Saison, une saison en enfer, et il est parti sur les routes sans écrire. Il n'écrivait plus.
Non, il écrivait.
Il est devenu un vagabond. Et c'est lui, le père, la silhouette de Rimbaud, qui va être repris par tous les hippies.
Kerouac et tout ça.
Voilà. Et donc, la force de Dylan, c'est d'incarner ce personnage de l'homme, le jeune, qui a les cheveux longs et qui se balade à travers le monde avec une guitare. C'est à ce titre-là. Il a fait redescendre la poésie qui avait été séquestrée par les intellectuels de l'après-guerre, René Char et tous les autres. et que le public, le populaire ne connaissait pas. Ils ont fait redescendre la poésie qui était séquestrée, l'ont libérée, elle est descendue au niveau du trottoir. Et Brassens était celui-là qui l'a fait pour la France.
Mais je suis tellement d'accord avec toi. Mais je te referai parler, t'imagines bien, de Bob Dylan dans les minutes qui viennent. Brassens, tu l'as connu, toi ?
Je ne connaissais que lui parce que je l'adorais. Mais j'avais une adoration qui correspondait aussi à ma nature. Je ne voulais pas être chanteur du tout. Et j'avais remarqué, je ne connaissais pas le music hall. Quand j'ai vu que le music hall, c'était des gens qui se précipitaient sur un artiste à la sortie des artistes pour demander des autographes, etc., et qui molestaient un peu l'artiste, j'ai dit, moi, parce que je suis très orgueilleux, moi, je ne suis pas prétentieux, mais orgueilleux, j'ai dit, moi, je ne veux pas que Brassens, en me voyant, dise, tiens, oh, voilà encore un emmerdeur. Je n'aurais pas accepté. Donc, je n'ai jamais été en train de solliciter d'être à côté de Brassens. Une fois, je l'ai croisé dans les coulisses de Bobino, et il y avait un photographe. J'ai trouvé cette photo il y a seulement un an. Je n'avais jamais vu la seule photo où je suis à côté de Brassens, et je crois que c'est pour le féliciter simplement, mais c'était un hasard. Sinon, je n'ai jamais été frappé à sa porte, parce que je ne te dirai pas, je te donnerai pas de nom, mais je sais qu'il y en a beaucoup qui ont frappé à sa porte, et j'ai eu les confidences de Gibraltar qui me disaient, lui, il l'appelait l'emmerdeur. Le voilà encore, cet emmerdeur.
Je précise pour nos auditeurs que Gibraltar était le secrétaire de Georges Brassens.
Oui, il m'a fait des confidences extraordinaires.
J'en doute pas. Eh ben, toi, tu vas continuer à nous en faire dans les minutes qui suivent. Mon invité d'aujourd'hui, de ce dimanche, M. Hugo Frey.
Didier Barbelivien sur Europe 1.
Europe 1.
Europe 1. Dis-moi ce que tu chantes, par Didier Barbelivien.
Mon invité du jour, monsieur Hugo Frey, on continue sur la lancée des copains d'abord. On va écouter Renaud Séchant, le chanteur, Mistral gagnant.
À m'asseoir sur un banc, 5 minutes avec toi, et regarder les gens tant qu'il y en a. Te parler du bon temps qui est mort ou qui reviendra, en serrant dans ma main tes petits doigts. Puis donner à bouffer à des pigeons idiots, leur filer des coups de pied pour de faux. Et entendre ton rire qui lézarde les murs, qui sait surtout guérir mes blessures. Te raconter un peu comment j'étais minot, les bons becs fabuleux. Compliqué chez le marchand, car en sac et minto, caramel à 1 franc, et les Mistral gagnants. À marcher sous la pluie, 5 minutes avec toi, et regarder la vie tant qu'il y en a. Te raconter la terre en te bouffant des yeux, te parler de ta mère un petit peu. Et sauter dans les flaques pour la faire râler, bousiller nos godasses et se marrer. Ton rire, comme on entend la mer s'arrêter, repartir en arrière. Te raconter surtout les carambars d'antan et les cocoboères. Et les frères au doudou qui nous coupaient les lèvres et nous niquaient les dents. Et les Mistral gagnants. Sur un banc, 5 minutes avec toi, regarder le soleil qui s'en va. Te parler du bon temps qui est mort et je m'en fous. Te dire que les méchants c'est pas nous. Et si moi je suis barge, ce n'est que de tes yeux, car ils ont l'avantage d'être deux. Et entendre ton rire s'envoler aussi haut que s'envolent les cris des oiseaux. Te raconter enfin qu'il faut aimer la vie et l'aimer même si. Est assassin et emporte avec lui les rires des enfants et les Mistral gagnants et les Mistral gagnants.
chrono Mistral gagnant, le deuxième choix de mon invité Hugo Frey. Chef-d'œuvre. Eh ouais, un chef-d'œuvre.
Chef-d'œuvre.
Tu sais que les Français qui ont plutôt bon goût, dans l'ensemble, dans leur majorité, c'est leur chanson
préférée. Oui.
Et elle est sur le même album, tu te rends compte, il y a En Cloque aussi sur le même album.
Non, mais c'est
écrit d'une manière...
C'est l'héritier. Bon, pour moi, c'est l'héritier de Bruant. Mm-hmm. Cette émotion, de cette façon de chanter populaire. Moi, j'ai toujours défendu la chanson comme un art majeur, dans la mesure où il n'y a pas d'art mineur pour moi. La seule différence entre la musique classique et la chanson, c'est que la musique classique, il faut faire des études pour écrire une symphonie. Mmh. Il faut faire des études. Est-ce qu'une chanson, n'importe quel gamin qui a une émotion à 10, 11, 12, 14, 13 ans, parce qu'il est amoureux, il va écrire une chanson. Tout le monde a le droit d'écrire une chanson. Tout le monde peut écrire une chanson. On ne peut pas écrire un roman comme ça, mais une chanson, on peut. Mais cette simplicité qu'il y a dans la clarté du texte de Renaud, comme celle de Brassens, c'est un grand art populaire et qui est reconnu tardivement par les gens, les intellectuels. Mais ils ne reconnaissent pas le côté... ils ne pensent pas que c'est comparable à Villon ou à Charles d'Orléans. Enfin, Verlaine ou Rimbaud. Mm. Voilà, c'est en tous les cas... moi, je ne peux pas écouter cette chanson. Alors, je la chante sur scène.
Ah, c'est drôle, ça.
Je joue la flûte de Pan et j'ai changé le texte. Sauf que c'est le même texte, mais que je m'adresse à lui. M'asseoir sur un banc, cinq minutes avec toi.
En parlant à Renaud.
Je parle à Renaud. Mmh. J'ai changé quelques mots. J'ai du mal à chanter cette chanson, tellement je suis ému.
Ouais, j'allais te dire l'émotion. Tu sais, moi, je l'ai entendu, comme tout le monde, quand c'est sorti au milieu des années 80. Et ça a été un choc.
Ouais, c'est un choc.
Parce qu'il y a plein de chansons qu'on a entendues dans nos vies, qu'on aime, des chansons d'Aznavour, de Ferré, de Brassens, de Ferrat, de toi, de plein de monde. Et puis, à un moment, il y en a une qui te chope, là. C'est comme en boxe. Moi, je n'ai jamais fait de boxe.
Ouais,
donc,
c'est le chaos.
Ça doit te mettre un truc, ça te met chaos.
Ouais.
Et alors, je l'ai réentendu, je crois, une autre fois, dont je ne voudrais pas dire une bêtise, je crois que c'est avec Vanessa Paradis et Maxime Le Forestier, et je me suis dit, c'est un truc éternel, parce qu'elle va presque à tout le monde, en tout cas, l'émotion qu'elle transmet est incontournable, jamais, quoi. Et je l'ai entendu depuis, comme toi, comme tous ceux qui nous écoutent, je ne sais pas combien de centaines de fois.
Ouais,
et chaque fois que j'entends cette intro de piano, ça vient me choper, ça me met un blues.
Tout est réussi dans ce disque.
Tout, c'est vrai.
Même la prise de son aussi.
Oui, tout, mais
et
je suis d'accord.
Cette façon qu'il a de chanter un peu en colère, une colère qui est réservée, et puis cette espèce de précipitation qu'il a, c'est formidable, quoi. C'est incroyable.
Et surtout quand on se dit que tout ça part d'un petit sachet.
Ouais.
Qu'on vendait dans les boulangeries avec une espèce de sucrine à l'intérieur. Ouais. On te fourguait avec un petit bâton de réglisse pour aspirer la petite sucrine. Et alors, comble du génie du mec qui avait inventé ça, il y avait gagné ou perdu. Il y avait une petite languette derrière. Alors, tu baissais. Perdu, tu gardais ton petit Mistral gagnant et tu rentrais à la maison avec.
Ouais.
Mais gagné, on t'en filait un deuxième.
Ouais.
Faut penser à des trucs comme
moi,
ça.
Moi, je voudrais dire simplement que Renaud, c'est comme un petit frère pour moi. Parce que sans lui, j'aurais eu beaucoup de mal. Dans les périodes difficiles de ma vie, qu'il apparaissait à la télévision dans un interview, il citait tout le temps Brassens comme son grand maître, mais il citait aussi Hugo Frey. J'en revenais pas. D'être cité en même temps et uniquement, il y avait ces deux noms. Donc je dois beaucoup, beaucoup, beaucoup à Renaud. Et je pense à lui et je suis toujours très ému. Et j'ai mis cette chanson parce que moi j'aime beaucoup la flûte de Pan. Et c'est le souffle de la vie dans cette flûte. Et je joue ce Mistral gagnant avec ce texte un peu adapté. Je peux te dire que le public adore ça.
Mais moi qui ai ton dernier album sous les yeux, là, Hugo Frey, Autoportrait, Il y a une photo à l'intérieur, là, bon, on est à la radio, hein, c'est difficile de vous raconter une photo, celle-là, là, tout à droite. Ouais. On dirait le frère de Renaud. Ah. C'est drôle. Vous avez le bout qui pousse un peu la moustache, les joues, les cheveux qui tombent, c'est une très belle photo en noir et blanc. Je dis le frère, j'aurais pu dire le père.
Oui.
Mais quand je te vois rentrer, ça fait quoi ? Que 40 ans que je te connais. Ouais. Depuis que je te connais, je me dis, mais c'est pas possible. Ce garçon est en dehors de son talent, il est d'une santé, d'une beauté, mais insolente.
Non, mais c'est
pas... On a dû te le répéter, enfin on te le répète encore, et toujours depuis des années. Mais c'est hallucinant.
Non, je commence seulement maintenant, après avoir passé le cap horn de la vie, c'est-à-dire 90 ans, je commence à penser que le destin est bien fait. Moi, je voulais être un grand peintre, un grand sculpteur. Je suis devenu chanteur malgré moi. Mais quand j'entends des gens comme toi qui parlent en disant que finalement, j'ai pu vous aider, je commence à dire simplement merci au destin.
Ouais, tu peux, mais...
Je ne me suis pas trompé, peut-être.
À plein d'étages, parce que bon, on l'entendra en fin d'émission. Quand je t'entends chanter, mais je me dis, mais dans quoi il est tombé, Hugo Frey, était petit?
Très rapidement, on va dire, je ne fume pas depuis très longtemps. Je bois très très peu d'alcool.
C'est vrai.
Et c'est d'ailleurs ça qui m'a mis un peu marginalisé par rapport non seulement aux autres artistes, mais par rapport aux médias. Car dans les médias des années depuis 1960, à peu près, les gens boivent beaucoup et fument beaucoup, beaucoup, et pas toujours des cigarettes.
Non.
Donc ça, je suis passé à côté de ça, c'est peut-être ça qui m'a...
T'étais un garçon sain et en bonne santé. Et c'est quoi, à toi, tes Mistral gagnants perso? C'est quoi les Mistral gagnants, Hugo Frey?
Eh bien, écoute bien, ça va tomber, parce que personne n'en a jamais parlé, j'aurais pas pensé en parler avant. Quand j'avais de 7-8 ans, en 1938, 39, 40... on vendait des petits bâtonnets en bois qui étaient comme une cigarette. C'était blanc, avec au bout, c'était comme de la cendre, rouge un peu. Et on aspirait, et c'était du goudron. C'était une sorte de goudron.
C'est génial. C'était pour pas fumer, mais bon, fumer quand même.
Et on avait une cigarette en bois qui brillait un peu en rouge au bout. Et c'était incroyable, parce que c'était un goût un peu comme du réglisse. Un mélange de réglisse. Et bien c'était ça, à l'époque on voyait, on allait au cinéma, on voyait Zorro, le premier Zorro, le vrai Zorro. C'était ça la cigarette de l'époque.
Et tes Mistral gagnants d'aujourd'hui, de grand garçon?
Ben c'est la musique que j'écoute, de la musique. Tiens, tout à l'heure tu parlais des grandes émotions, il faut que vous écoutiez Nina Simone, que j'aurais bien aimé te mettre dans mon programme, chantant « Ne me quitte pas ».
Oui, si je connais cette version.
Tiens, tu meurs.
Mais pourquoi tu ne l'as pas mis? Parce que, hélas, je cantonne l'émission à cinq chansons, plus la nouveauté de l'artiste. Mais ce n'est pas grave, tu reviendras, tu fais partie de ces gens qu'on peut accueillir, réaccueillir, tellement de tas de choses à nous raconter.
Merci, je reviendrai.
On te retrouve dans quelques instants, mon invité, Hugo Frey.
Didier Barbelivien sur Europe 1. Dis-moi ce que tu chantes, par Didier Barbelivien.
On retrouve mon invité du jour et c'est rien que du bonheur, d'abord de l'avoir en face de moi et de vous faire découvrir ses choix, parce que depuis le départ, bon, on a beau avoir choisi que deux chansons, c'est un sans faute et la troisième aussi. Monsieur Alain Souchon, c'est déjà ça.
Ah oui, formidable chanson.
Je sais bien que rue Belleville, rien n'est fait pour moi, mais je suis dans une belle ville, c'est déjà ça. Si loin de mes antilopes, je marche tout bas, marcher dans une ville d'Europe, c'est déjà ça. Oh, oh, oh. Et je rêve que soudain mon pays soudain se soulève. Oh, oh. rêver, c'est déjà ça, c'est déjà ça. Y'a un sac de plastique vert au bout de mon bras. Dans mon sac vert il y a de l'air, c'est déjà ça. Quand je danse en marchant dans cette jet là-bas, ça fait sourire les passants, c'est déjà ça. Oh oh oh. Et je rêve que soudain mon pays soudain se soulève. Oh oh. Rêver, c'est déjà ça, c'est déjà ça. C'est déjà ça. Déjà ça. Déjà. Pour vouloir la belle musique, soudain mon soudain. Pour un air démocratique, on te casse les dents. Pour vouloir le monde parler, soudain mon soudain, suite la parole échangée, on te casse les dents. Oh, et je rêve que soudain mon pays soudain se soulève. Oh, rêver c'est déjà ça, c'est déjà ça. Je suis assis rue Belleville, au milieu d'une foule, et là le temps est morphine, cool. Oh, oh, oh. Et je rêve que soudain mon pays soudain se soulève. Oh, oh. Rêver c'est déjà ça, c'est déjà ça. Oh, oh, oh. Et je rêve que soudain mon pays soudain se soulève. Oh oh, rêver c'est déjà ça, c'est déjà ça.
C'est beau, hein? C'est une des rares chansons engagées d'Alain.
Ouais, mais là, il a résumé la dramatique condition humaine, le rêve.
Et puis,
qui sauve, c'est déjà ça, c'est extraordinaire.
Ouais, ben, c'est génial. Et puis, il y a un truc que j'adore chez Alain, mais il le sait, c'est que même le désespoir,
ouais,
c'est raconté avec une forme d'élégance, un sourire, une délicatesse. Regarde, quand tu arrives à écrire. Si loin de mes antilopes, je marche tout bas. J'ai jamais lu ça.
Ouais.
Je marche tout bas. Marcher dans une ville d'Europe, c'est déjà ça.
Oui, ben c'est extraordinaire.
C'est extraordinaire, franchement.
Non, mais c'est un génie.
Ah, mais Alain, c'est mon préféré de ma génération.
Ah oui, sûrement.
Sûrement. Ah, je marche tout bas. Tu vois,
mais qui a fait la musique? C'est lui ou c'est...
Non, c'est Woodsy, c'est Laurent.
Ouais, en plus
c'est
de ça,
Lolo.
Le couple est extraordinaire. Hein.
Oui,
et l'arrangement formidable.
Oui, 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 c'est un couple d'auteurs-compositeurs, comme tu as pu former dans les années 60-70 avec tes auteurs, toi.
Ouais, non, mais
je pense à Delanoë quand même, ouais. À Flynn Buggy, qui ont été des auteurs très proches,
très proches
de toi. Et c'est une question que j'avais envie de te poser. Est-ce que au départ du Gaufret, en dehors des chansons originales que tu as écrites, quand vous avez commencé à traduire Dylan avec Delanoë, qui restent des traductions pour moi top niveau, tu vois, quand je réécoute Cauchemar psychomoteur, Dieu est à nos côtés, enfin tu vois, t'aurais aimé toi avoir un alter ego? Mettons, t'aurais été Woolsey, t'aurais aimé avoir ton Souchon, étant Souchon, t'aurais aimé avoir ton Woolsey.
Moi, ce qui m'inspire, pour écrire un texte, il faut que la musique me bouleverse. Or, les musiques que je faisais moi-même ne me bouleversaient pas. Or, quand tu commences à te poser des questions, est-ce que c'est qu'il y a trois notes de trop ou bien autre, que j'ai écrit un texte où il manque deux mots, tu ne sais pas choisir. Moi, j'aime pas travailler. J'étais pas fait pour écrire des chansons, mais je ne suis pas le seul. Je pense que Souchon, qui a fait des belles musiques aussi.
Mais, je sais.
Bon, voilà. Mais je veux dire que travailler, quand on est poète, avec un musicien différent, je trouve que c'est. Moi, j'ai fait des très belles chansons avec Jean-Pierre Sabar, parce qu'il faisait des musiques magnifiques.
Oui, oui, oui.
Alors, le problème, lorsque j'ai commencé à traduire Bob Dylan, il faut dire la vérité, c'est que moi, je venais de gagner un concours à Europe 1, où le numéro 1 de demain. J'avais rencontré Delannoy, qui très rapidement m'a dit, Hugues, mon petit, il faut que tu écrives des chansons, sinon tu ne feras pas de carrière. Alors, je lui ai dit, mais moi, je ne sais pas écrire. Alors il m'a dit, bon, on va essayer de faire quelque chose. Alors je lui ai montré, je lui ai dit, je ne veux même pas te montrer de musique, elle ne m'intéresse pas. Et à ce moment-là, je lui ai parlé de Dylan. Et pour être très franc, il a écouté, il a détesté.
Oui, souvent.
Oui,
départ.
Je veux dire. Il n'aimait pas la voix, pas la guitare, il n'aimait pas les mélodies, et il n'aimait pas les textes qu'on a évidemment traduits mot à mot. Mm-hmm. Ce n'était pas tout à fait sa vision de la société.
Exact.
Et donc, comme il m'a dit, mais écoute, comme je t'aime bien et que tu es un gentil garçon et tu es honnête, je vais t'aider. Tu veux qu'on fasse ça, on va le faire. Mais on a été beaucoup aidés musicalement par Jean-Pierre Sabar, qui lui nous a explicité, si on peut dire, la structure difficile de Dylan, qui des fois rajoute des pieds ou des fois il en manque. Mais on est arrivé à un résultat, et en fait j'ai appris à écrire des chansons, maintenant je les écris tout seul, à partir du moment où j'ai une musique qui m'excite, mais c'est grâce à Vlin Bugy et grâce à Delannoy, parce qu'au début... J'arrivais un petit peu comme si on te demande à une fille qui est très jolie, qui est mannequin, puis qu'on lui dit tout d'un coup, il faut que tu te déshabilles.
Ouais, ouais, ouais.
Et qui dit, j'ai pas l'habitude de me déshabiller, de me montrer toute nue devant le photographe, quoi.
C'est rare d'entendre cette humilité. Et c'est vrai que vous avez fait avec Pierre des chansons formidables tous les deux, et avec Vlin aussi.
Oui.
Même pour d'autres, parce que peu de gens savent. Très peu de gens savent que, par exemple, avec Vlin, vous êtes les auteurs du Pénitencier qu'a chanté, qu'a porté Johnny Hallyday tout au long de sa carrière. C'est une chanson qu'il a chantée jusqu'au dernier jour. Ouais. Moi, j'ai assisté à la tournée des Vieilles Canailles. Il chantait encore le Pénitencier pendant la...
C'est la chanson favorite des fans de Johnny. Bah, c'est ça, la chanson numéro un.
Bah oui, parce que c'est... D'abord, elle est immuable... Elle lui colle, elle colle à tous les âges de la vie. Donc, il l'a gardé. Mais je pense à d'autres titres que vous avez fait avec Pierre. Enfin, moi, mais c'est bien de parler de ça parce que le public qui nous écoute, il est à la fois averti, très averti, des chansons des invités que je reçois. Et également, on fait découvrir des trucs quelquefois. Moi, je pense à une chanson que j'adorais qui s'appelait « Le cœur gros ».
Ah oui.
Que peu de gens connaissent. Oui. C'est pas un hit, mais c'est ce que j'appelle une grande chanson, ça.
Ah
tu vois ?
Oui, je sais que beaucoup de fans me disent ça.
Bah oui, c'est une grosse, grosse chanson d'Hugo Frey qui raconte un engagement, une humilité et puis un constat. Sur les...
Différentes photos de la société.
De la société, exactement. Et toi, à quel moment tu as eu conscience ou tu t'es senti être un auteur engagé ? Parce que tu traduisais Dylan, parce que tu chantais les crayons de couleur, parce que toi, t'es un type qui a connu la guerre d'Algérie, la guerre d'Indochine...
La guerre de 39-40 et la guerre d'Espagne,
Oui, je suis d'accord. Oui, mais... T'étais petit garçon, quand même, ces guerres-là.
Oui, ta question était le mot « engagé ».
Oui.
Ben, j'ai toujours été, non pas engagé, mais toujours conscient quand mon père nous racontait la guerre d'Espagne, parce qu'on allait en vacances à Hendaye, on entendait la mitrailleuse qui pétait de l'autre côté, le canon. Et donc j'ai été élevé, je suis un enfant de la guerre qui n'a pas fait la guerre. Voilà. Et c'est très particulier comme situation. J'ai toujours pensé qu'un homme n'était pas un homme s'il n'était pas capable de défendre sa famille d'une manière ou d'une autre. Ça, c'est ça qui fait la différence entre ma génération et la tienne, par exemple. Moi, j'ai adoré faire mon service militaire dans les chasseurs alpins, 27e BCA à Annecy. Mais j'ai toujours été... moi, la première fois que j'ai mis un coup de poing à un garçon et je me suis fracturé le métacarpe, c'est un petit os dans la, dans la main, c'est parce qu'il avait insulté la sœur d'un, d'un copain à moi qui était métisse de l'île Maurice et qu'il l'avait traité de, probablement de petite négresse ou sale négresse, quelque chose comme ça. Je lui ai mis un coup de poing, je l'ai fait tomber par terre. C'était la première fois que je me battais avec un coup de poing. J'avais 12 ans. Donc, moi, la cause pour la justice et la vérité, surtout, puisque pour moi, le racisme, c'est un mensonge, c'est ça que je ne supporte pas. On est, effectivement, j'ai toujours été sensible à l'injustice et à la recherche de la vérité. Donc, l'engagement, ça ne date pas du tout de l'époque d'Ilan.
Non, mais ça s'est retrouvé tout au long dans tes chansons, sur le temps de tes chansons à toi, ça, je peux en témoigner. Et là... C'est merveilleux parce que tu as choisi en même temps Alain Souchon, c'est déjà ça, et son alter ego, Laurent Voulzy, dans une chanson que j'adore aussi qui s'appelle Paradoxal Système. On l'écoute.
Les cœurs qui se séparent.
Laurent Voulzy, Paradoxal System, choix de mon invité Hugo Frey. Et pendant que passait la chanson, en même temps qu'on l'écoutait, on se racontait les concerts de Laurent dans les cathédrales et dans les églises, que je crois tu vas bientôt
je prends la suite.
Suivre et poursuivre, et tu prends la suite.
Mais sache une chose, c'est que je ne revendique rien du tout, mais il y a 25 ans à peu près que j'avais demandé à mon producteur de me faire une tournée dans les cathédrales. Ça ne se faisait pas, et ça ne s'est pas fait avec lui, malheureusement, mais maintenant ça se fait. Ce qui veut dire, pour les jeunes qui nous écoutent, qu'il n'est jamais trop tard.
Mais je viendrai comme beaucoup de tes fans t'y écouter, parce que c'est étonnant, moi, quand j'ai vu, j'ai entendu Laurent à Saint-Sulpice, exceptionnel, un concert de fou.
Fou.
Avec, je ne pouvais pas imaginer que ce serait ça, un concert de Laurent dans une église.
Ouais.
Et c'était magnifique. Dis-moi, en dehors de ces concerts-là, j'ai retrouvé dans cette chanson un truc qui est drôle, parce que c'est ton choix. Je dis toujours, cette émission, c'est « Dis-moi ce que tu chantes, je te dirai qui tu es ». Il y a une phrase « Car tous les départs resserrent les cœurs qui se séparent ». Et je me dis, Hugo Frey, il en a fait un chemin, parce que c'est un peu l'anti, n'y pense plus, tout est bien.
Eh oui.
Et moi, j'adorerais cette traduction « Don't think twice, it's alright » de la chanson de Dylan.
Oui.
Et j'adorais parce que à l'époque, évidemment, on était des ados prêts à tout pour embrasser une fille, être séduit par une fille. Et c'est une des rares chansons, pour pas dire la seule, qui plaidait pour l'indifférence, le désamour. À quoi ça sert de chercher à comprendre pourquoi on dit ce qu'on dit ?
Là, Dylan, oui, il a frappé fort, mais il frappe fort dans tous les sens. Il y a des tas de chansons que le grand public ne connaît pas de Dylan, notamment celle que je chante dans les cathédrales maintenant, au moment probablement la première chanson que je chante, ça s'appelle Ringing Bells, cloche sonnée.
Ouais.
C'est un chef-d'œuvre. D'accord. Tu écouteras ça, c'est dans le disque que j'ai enregistré moi de Dylan, qui s'appelle New Yorker, où il y a des duos avec que des stars de France. Et le dernier morceau, c'est le 13e morceau. Je chante tout seul, c'est pas un duo, c'est la seule chanson qui est pas en duo, et j'ai fait, parce que c'est un chef-d'œuvre en anglais, je l'ai traduit en français en mettant tout mon cœur, et ça arrive à être une très belle et très grande chanson. J'ai pas dit un chef-d'œuvre en français, parce que je suis quand même fondamentalement modeste, mais je dois beaucoup à Laurent Voulzy, parce que il m'a redonné, d'abord on s'est découvert. Il m'a donné envie de chanter, et je chante cette chanson de Dylan en français, et je trouve que le texte est très bien, et je suis assez fier de l'avoir fait.
Et c'est drôle parce qu'il y a dans la chanson des deux, là, de Laurent et d'Alain, je pense un petit clin d'œil, encore là, discret, mais toujours subtil chez Alain. Plus je monte vers le nord, plus notre amour devient fort. Et là, il y a le petit truc à la fille du Nord. Il ne peut pas s'empêcher.
Évidemment.
Mais oui, parce que cette génération, la mienne, la sienne, celle de Laurent, on a trop écouté ces chansons-là, comment te dire.
Ouais, ouais.
On est tatoué de ces chansons-là. Donc la petite pirouette, dès qu'on peut la mettre, on la met. Tu vois, si tu passes là-bas vers le Nord où les vents souffrent sur la frontière, pourquoi on se gênerait? Voilà, je suis en compagnie d'Hugo Frey. Et je passe un très très bon moment, j'espère que vous aussi. On se retrouve à tout de suite.
Didier Barbelivien sur Europe 1. Europe 1, dis-moi ce que tu chantes, par Didier Barbelivien.
De retour en compagnie de mon invité Hugo Frey et son cinquième et dernier choix avant de découvrir une nouveauté de toi. Ça s'appelle L'Enfer et c'est interprété par Stromae.
Je suis pas tout seul à être tout seul. Ça fait déjà ça de moins dans la tête. Et si je comptais combien on est, beaucoup, tout ce à quoi j'ai déjà pensé, dire que plein d'autres y ont déjà pensé, mais malgré tout, je me sens tout seul. Du coup, j'ai parfois eu des pensées suicidaires, j'en suis peu fier. On croit parfois que c'est la seule manière de les faire taire, ces pensées qui me font vivre un enfer. Ces pensées qui me font vivre un enfer. Est-ce qu'il y a que moi qui ai la télé et la chaîne culpabilité? Mais faut bien se changer les idées, pas trop quand même, sinon ça repart vite dans la tête. Et c'est trop tard pour que ça s'arrête, c'est là que j'aimerais tout oublier. Du coup, j'ai parfois eu des pensées suicidaires et j'en suis peu fier. On croit parfois que c'est la seule manière de les faire taire, ces pensées qui me font vivre un enfer. Ces pensées qui me font vivre un enfer. Et je sais vraiment pas quoi faire de toi. Justement, réfléchir, c'est bien le problème avec toi. Tu sais, j'ai mûrement réfléchi. Et je sais vraiment pas quoi faire de toi. Justement, réfléchir, c'est bien le problème avec toi.
Stromae, l'enfer.
C'est trop de talent, c'est trop de talent. Tu m'as foutu un cafard noir.
Oui, mais pourquoi tu as choisi ça?
Parce que c'est trop beau, c'est tellement de talent. Le talent des autres est un don du ciel. Mais là, dans cette chanson, il parle d'un sujet
qui t'a touché.
Oui.
Tu l'as connu?
Oui.
Tu as connu ça?
Oui.
Personne ne l'a su?
Si, parce que j'en ai parlé beaucoup, c'est mon frère qui s'est suicidé.
Ah là 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 là. Suite ouais. à une dépression.
Suite à un amour interdit.
Oui.
Oui.
Qui l'a poussé à la dépression.
C'est sûr, et Stromae a tellement de talent qu'il a réussi. C'est pas une chanson ça, c'est quelque chose de plus qu'une chanson, c'est... Je sais pas quoi. Une chanson c'est quelque chose qui est un couplet, un refrain que tout le monde doit chanter ensemble. Autour d'une table, une fête, un feu. Mais ça, c'est une déclaration. C'est une déclaration. C'est un aveu. C'est quelque chose de tellement intime. Moi, ça me transperce.
Oui, je te vois tellement ému là, dans le studio que...
J'ai du mal à parler.
Oui, je le vois et j'en suis, je le dis, bouleversé parce que je te vois... Je te vois touché, je te vois tellement... pris par, par cette idée qui en plus, je pense, n'a jamais été traitée. Enfin, c'est des trucs dont on ne parle pas. Enfin, ça c'est pas traité dans les chansons.
Si
ça.
J'ai écrit une chanson là-dessus, moi, mais que je voulais enregistrer dans ce dernier disque, Autoportrait, mais qui m'a été refusé, disons, parce qu'il voulait absolument avoir nos quatre standards. J'étais pas d'accord. Et il y avait une chanson sur le suicide. Et mais voilà, le suicide est quelque chose, c'est une réalité. Qui est voilà, mais effectivement, c'est un sujet très difficile à aborder. Pourtant, on dit beaucoup de choses dans les chansons. Ben, je pense que je pourrais la sortir une autre fois, cette chanson. Mais en tous les cas, Stromae, c'est un très très grand talent. Oui, très grand talent.
Mais moi, je vais te faire, allez, je vais te faire rire maintenant, voilà, parce que je vais te faire rire, je vais te dire avec quoi.
J'en ai besoin.
Mais allez, là, je suis sérieux, ne pense pas du tout que je suis un flagorneur. Tu me connais depuis longtemps, c'est pas du tout l'état d'esprit de la maison. Et une de mes chansons préférées, on parlait de Johnny Hallyday tout à l'heure et on l'a bien connu tous les deux. Une de mes chansons préférées, peut-être la chanson d'amour que je préfère de Johnny, c'est l'adaptation que tu as écrite avec Vlyn de Girl, Je l'aime.
Ah oui.
Tu vois ? Et on ne sait pas à quel point, quand on écrit, des chansons peuvent bouleverser la vie de ceux qui les écoutent. Ou qui les entendent et qui les achètent. Et moi, quand j'étais, adolescent, mon histoire est une histoire comme on en vit tous les jours, on croit pouvoir s'aimer pour la vie. Je me disais, ça commence comme ça, le truc. Celle-là, elle me bouleversait, cette chanson. Elle me chagrinait.
Oui.
Elle me disait, lui a-t-on déjà appris, lorsqu'elle était une enfant, que l'amour est souvent le plus fort. Les défaites de la vie marquent un garçon pour longtemps. Oui. Le sera-t-elle quand je serai mort ? Tu vois, je me souviens du texte encore aujourd'hui, et c'est pas une chanson d'hier. Et comme quoi, on ne sait pas, quand on écrit une chanson, comment où elle va rebondir.
Bien sûr,
tu comprends?
C'est un peu comme Céline, on me demande souvent, Céline, c'est mon frère, c'est celui qui m'a élevé, qui s'est sacrifié pour moi.
Il s'est sacrifié.
Et qui,
c'est une transposition.
Moi, en fait, je suis devenu chanteur par un transfert, parce que c'est lui qui aurait dû faire la carrière internationale. Il avait une des 5 plus belles voix du monde d'opéra. Mm. Il aurait pu, à 22, 23, 24 ans, devenir un des plus grands chanteurs d'opéra. Lui, il avait une voix de baryton basse. Mm-hmm. Il pouvait chanter Boris Godounov, par exemple. Quand il chantait Boris Godounov, quand il chantait à l'église des cantiques, dans l'église, tout le monde pleurait. Mm-hmm. Avec le son de sa voix. Et donc, comme il m'a quitté, il avait un an de plus que moi, il nous a quittés, il avait 27 ans, moi j'en avais 26. Et là, il y a eu un transfert
gros choc.
Qui va durer, qui va prendre 5 ans. Donc ça va m'amener à peu près à la trentaine. C'est moi qui ai pris sa place. Mmh. Voilà.
Vous étiez combien dans la famille?
Nous sommes 3 garçons.
3 garçons.
Fratrie, c'est moi, je suis le 3e.
Ouais. Et ta sœur?
Et ma petite sœur, qui vient 7 ans plus tard, qui va devenir une comédienne. Elle est actuellement sous-estimée et méconnue dans la nouvelle génération, parce que nos rapports, que ce soit Pascal ou moi, avec les médias, ils sont avec les médias pratiquement zéro.
Oui, je sais, on ça a toujours été comme ça.
Oui, L'eau vive est un très beau film avec un sujet très moderne, la destruction d'un village qui est noyé pour un barrage. On pourrait voir ça 3-4 fois par an.
T'es presque, en fait, on va bientôt être à la fin de cette émission, et je me rends compte que tu es devenu quelqu'un d'incontournable, de totalement intégré, plus qu'intégré dans le paysage de la musique française. T'en es un des piliers, et presque par hasard, quoi.
Par hasard.
Parce que je me souviens, au plus fort de ton succès dans les années 60, enfin vous étiez quelques-uns, vous n'étiez pas si nombreux, mais ça, vous étiez juste mythique. Johnny, toi, Claude François, Heidi, enfin machin. Ouais. Tout le monde était dans SLC, et toi pratiquement jamais. Voilà. Ou alors des reportages en Ardèche, avec des chevaux.
Avec le chèvre.
Les chèvres.
Fromage de chèvre.
J'ai bien ça dans la tête, vraiment. Je n'ai rien oublié de ces années-là. Mais c'est aussi l'attachement, je pense, que te portaient tous les adolescents de cette génération en se disant, bon, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Puis il y a Hugo Frey, lui.
C'est eux qui m'ont sauvé.
C'est différent.
C'est eux qui m'ont sauvé.
C'est un garçon autrement.
Voilà, c'est eux qui m'ont sauvé. Je continue encore. Tu sais pourquoi je continue? Parce que je n'ai pas terminé.
Ouais, mais c'est génial.
J'ai un chemin à faire. Ouais. Ce que je demande, moi, au destin, je regarde le ciel quand je pense au destin. Et je dis, permettez-moi d'aller jusqu'au bout.
Mais oui, mais est-ce qu'il y aura
un bout?
Ah oui, à chaque fois que je te croise, je me dis, mais est-ce qu'il y a une fin à ce garçon? T'as vu, je dis bien à ce garçon.
Oui.
Je pourrais dire à cet homme.
À cet homme. Non, ce garçon.
Non, pour moi, tu restes un jeune homme. Donc je me permets d'être irrévérencieux et de t'appeler ce garçon.
C'est pour ça que
tu as encore un nouvel album et pas n'importe quoi avec cette chanson qu'on va découvrir. Parce que je peux le dire, on est entre nous, tu sais, on est, il n'y a que 4-5 auditeurs qui nous écoutent. Non, je plaisante.
Oui, oui.
Il y a un truc qui m'a plu quand j'ai entendu cette chanson tout à l'heure, bien avant que tu pénètres dans le studio. Je me suis dit, c'est bien parce que Hugues, il n'a pas encore fait le combat de trop. C'est-à-dire que...
J'en ai encore quelques-uns à battre.
Elle est encore dans la lignée du Gaufret, avec la fraîcheur du Gaufret et de tout ce qu'on aime en toi. On l'écoute, ça s'appelle « Paie-moi ce que tu me dois ».
Hé capitaine, fais pas le malin, ce soir faut que tu me paies, tu vas tirer demain matin. Ce soir faut que tu me paies, toi le pacha t'es trop futé. Ce soir faut que tu me paies, demain tu voudras m'arnaquer. Ce soir faut que tu me paies. Paie-moi, paie-moi, paie-moi ce que tu me dois. Pas besoin d'avocat, paie-moi ce que tu me dois. Si tu veux faire une bonne affaire, paie-moi ce que tu me dois. Garde pour toi tes belles manières, paie-moi ce que tu me dois. J'ai navigué dur sans répit, paie-moi ce que tu me dois. 80 jours, 80 nuits, paie-moi ce que tu me dois. Paie-moi, paie-moi, paie-moi ce que tu me dois. Ou je t'envoie aux galères, paie-moi ce que tu me dois.
Ce que tu me dois, mesdames et messieurs, mes chers auditeurs, c'est le nouveau Hugues Gaufret qui est en face de moi. Elle est passée vite cette heure-là. Hein. On s'en est dit des trucs, mais pas suffisamment. Tu m'as séduit comme toujours, tu m'as ému parce que tu m'as ému.
C'est toi qui m'as ému.
C'est comme ça, c'est ça le...
C'est réciproque. Hein.
C'est le direct, c'est fait comme ça. C'est sans filtre, nos conversations. C'est en ça que j'aime cette émission, je le dis, et j'aime les invités que j'y reçois. Je sais que tu vas partir donc chanter dans les cathédrales, dans les églises.
Collégiales.
Collégiales. Et on donnera les dates, je ne sais pas quand.
Ouais,
tu sais, moi, je suis un mec, oui, je ne suis pas trop un mec de chiffres.
Mettra ça sur Facebook.
Les dates, je peux me gourer. En tout cas, il y a un truc où je ne me trompe pas, c'est que je viendrai t'y rejoindre, t'y écouter.
Bienvenue,
parce que
t'attends.
Ce sera un plaisir.
Je t'attends.
Merci d'avoir partagé ces moments avec nous.
Didier, c'est moi qui te remercie.
Monsieur Hugues Gaufret.
Monsieur, c'est beaucoup.
Je te
merci
dis à très
toi.
Vite.
Merci,
Hugues.
Merci mille fois.
Didier Barbelivien sur Europe 1. Dis-moi ce que tu chantes.
L'émission « Dis-moi ce que tu chantes » d'aujourd'hui était aussi assurée par Maryse Jacquet, Benoît Valentin, Rémi Duprat, sans oublier le générique de René Aubry.
Je vous laisse en compagnie de Stéphanie Loire. Bonjour Stéphanie.